Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci de rester à notre écoute pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire consacrée au cardinal Tisserand. Qui se souvient aujourd'hui d'Eugène Tisserand, originaire de l'Est de la France, né en 1884 et mort en 1972, ce cardinal qui domina le XXe siècle. En effet, il connut deux guerres mondiales, le délitement des empires, auparavant les totalitarismes nazis et communistes. Il vécut sous les pontificats de sept papes, il participa même à l'élection de trois d'entre eux, Pie XII, Jean XXIII et Paul VI. Il vécut à la fois la crise néo-thomiste, mais aussi la crise moderniste, la crise des années 60, dans une église qui, elle-même, dut faire face au bouleversement du siècle pour finalement tenter de s'adapter ou de se réconcilier avec le monde à l'occasion du Concile Vatican II. Prince de l'église, certes, le cardinal Tisserand fut aussi et avant tout un savant hors pair, chercheur, polyglotte, élu à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, mais aussi à l'Académie française, une sorte d'icône, on peut le dire, de la réconciliation de la foi et de la raison, dont parlera bien plus tard un certain Jean-Paul II dans son encyclique. La lecture de cette vie aux multiples facettes nous permet sans nul doute de mieux appréhender, de mieux comprendre et de mieux saisir l'histoire contemporaine de l'Église. Et pour évoquer cette personnalité hors du commun, je suis honoré et heureux d'accueillir à ce micro Étienne Fouillou. Étienne Fouillou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nos auditeurs vous connaissent déjà, peut-être, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez à ce micro. Vous aviez réalisé avec mon confrère David Gaillardon une émission consacrée au carnet du cardinal Roncalli. D'ailleurs, il y a un point commun très important entre Roncalli et Tisserand. Nous y reviendrons. Votre actualité littéraire est très chargée, si je puis dire, puisque donc vous venez de publier chez Desclée de Brouwer une biographie très volumineuse du cardinal Tisserand, Eugène, cardinal Tisserand, 1884-1972, dans la collection Pages d'Histoire dirigée par Jean-Dominique Durand. Une réédition également, la collection Sources chrétiennes, avec comme sous-titre édité Les Pères de l'Église au XXe siècle, aux éditions du Cerf. Il s'agit d'un petit ouvrage d'un peu plus de 200 pages, qui est ni plus ni moins que l'histoire des éditions dominicaines du Cerf.
Enfin, une partie d'entre elles, de cette collection fameuse de Pères de l'Église, qui a commencé en 1942, dirigée par le père de Lubac et le père d'Agnelou, tous deux futurs cardinaux, et qui vit encore glorieusement aujourd'hui, qui en est entre 500 et 600 titres, et qui est une sorte de colonne des éditions du Cerf. C'est une de leurs grandes collections, c'est pas la seule, mais c'est une de leurs grandes collections qui a rendu accessible à un public plus large ces textes des pères de l'Église, et notamment des pères orientaux, des pères grecs ou syriens, ou égyptiens qui étaient méconnus auparavant. Et donc faire l'histoire de cette collection, c'est aussi faire l'histoire d'un moment intellectuel du catholicisme français entre les années 30 et les années 60.
Et vous venez de participer également au Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle. C'est un monument pour l'historiographie, bien évidemment, pour tous les chercheurs, pour tous les étudiants qui s'intéressent à l'histoire religieuse de la France. Un dictionnaire incontournable, donc dirigé par Dominique-Marie Dauzé et Frédéric Lemoigne, paru aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage pour lequel vous avez beaucoup participé ?
Oh, j'ai fait une douzaine de notices, oui, notamment le cardinal Gerlier, le cardinal Suard, Mgr Riobé, un certain nombre de notices importantes, et je suis membre du comité scientifique de cet ouvrage qui est une sorte d'illustration de la vitalité de l'école d'histoire religieuse en France actuellement, puisque presque tous les enseignants et chercheurs dans cette discipline ont participé à cet ouvrage. Donc j'y ai participé activement, mais je suis loin d'être le seul.
Ce n'est pas simplement un dictionnaire, il y a un glossaire très très complet, il y a une liste des évêques missionnaires, vous avez également la liste des nonces apostoliques à Paris, la liste des ambassadeurs en poste près le Saint-Siège.
Oui, ça se veut un instrument de travail...
Admirable.
Admirable, je ne sais pas, je suis jugé parti, mais en tous les cas, on a voulu faire quelque chose qui soit utile, utile aux chercheurs, mais aussi utile aux évêques actuels qui peuvent avoir envie de connaître tel ou tel de leurs prédécesseurs. C'est très complet, bon, c'est sans doute pas exempt complètement de parti pris, mais en tous les cas, ils y sont tous.
Exactement, on trouve même la liste des différents prélats qui ont été nommés par pontificat.
Oui.
Et également les...
aussi les évêques par siège épiscopal, depuis le début du XXe siècle, depuis la séparation des églises et de l'État, et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a des notices qui sont des notices purement factuelles sur les évêques encore en poste actuellement. Seuls ont des notices plus développées sur le plan historique des évêques qui ne sont plus en poste actuellement, même s'ils sont encore vivants.
Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, sous la direction de Dominique-Marie Dauzet et Frédéric Lemoigne, aux éditions du Cerf. Alors, chez ce même éditeur, vous venez donc de publier une biographie, c'est l'objet de cette émission, consacrée au cardinal Tisserand. Alors, le cardinal Tisserand, c'est d'abord une image, un personnage barbu qui se distingue, et qui se distingue, alors, à de nombreux titres, mais c'est un des seuls cardinaux français qui ait eu des postes d'importance au Vatican.
Oui, c'est une figure originale, pas seulement parce qu'il était barbu, mais est le seul de son espèce dans le Sacré Collège. C'est lié à son travail en Orient. Les prêtres qui travaillent en Orient sont souvent barbus, pas seulement les prêtres d'ailleurs, comme vous savez. Et donc, il avait conservé cette pilosité. Mais c'est aussi une figure originale qui tranche un peu sur ce monde du Sacré Collège, à base d'Italiens... Je dirais pas interchangeable, mais en tous les cas, il n'y a pas de grande figure qui émerge, au moins à la période qui est la sienne. Il a été le seul cardinal français à jouer un rôle en curie entre 1936, donc sa date de nomination comme cardinal, et les années 1960, puisque à partir du Concile, Paul VI a pratiqué une assez large internationalisation de la curie, et on a vu arriver des grandes figures françaises du Concile, comme le cardinal Garonne ou le cardinal Villot, à des postes très importants à Rome. Mais auparavant, il a été pendant quasiment trois décennies le seul. Après, il y a eu le cardinal Julien, qui était proche de lui, son confesseur. Mais sinon, bon, il était le Français au Vatican. Et le gouvernement français en avait bien conscience, parce qu'il l'a utilisé comme informateur. Le ministère des Affaires étrangères a utilisé Tisserand, et Tisserand a utilisé aussi le ministère des Affaires étrangères, pour renseigner Paris sur Rome et Rome sur Paris. Enfin, donc il a joué aussi un rôle d'intermédiaire à cet égard.
Alors, avant de revenir sur cette vie extraordinaire, peut-être un mot des archives. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un point commun entre le cardinal Roncalier et le cardinal Tisserand. Ce point commun, ce sont les archives. C'est extraordinaire. Vous avez un matériau sans nul autre pareil.
Oui, oui, oui. Ce sont des archives... 18 000 correspondants, peut-être 200 000 pièces de documentaires, c'est quasiment inépuisable. Et c'est à la fois un bottin ecclésiastique et un bottin tout court, parce qu'ils sont présents, les grands de ce monde, le roi Baudouin des Belges, Pierre Mendès France, quantité de personnages. Alors pourquoi ce fonds d'archives? Parce qu'il y a eu à l'origine un différend, il faut le dire, je crois, entre Tisserand et le Saint-Siège. Normalement, entre guillemets, les archives, y compris les archives considérées comme privées, doivent être déposées, les archives des cardinaux, dans les archives vaticanes. Et lui a toujours considéré qu'il y avait deux parts dans sa documentation, qu'il y avait les papiers de service, en quelque sorte, qu'il déposait au fur et à mesure dans les administrations considérées, et ses papiers personnels, c'est-à-dire sa correspondance personnelle, et il a toujours fait une distinction entre les deux, et il n'a jamais voulu que ses papiers personnels aille dans les archives vaticanes, ce qui a créé un problème. Du coup, il les a fait retirer à l'extrême fin de sa vie et elles ont été déposées, ces archives, dans un lieu qu'il avait considéré comme pouvant lui servir de retraite, mais il avait présumé de ses forces et il est mort rapidement et elles y sont toujours, dans un nid d'aigle des Pyrénées-Orientales. Et quasiment personne avant moi, à quelques exceptions près, ne les avait vus et n'avait exploité cette extraordinaire richesse. J'ajoute un point sur ces archives, c'est qu'elles lui donnent tout à fait raison. Les papiers comportant un numéro de protocole, qui sont les papiers de service des congrégations romaines, il n'y en a pas dans ces archives, ou alors ce sont des copies, et les originaux sont bien déposés. Pour ce que j'ai pu voir, par exemple, pour la congrégation pour l'Église orientale entre 36 et 39, il y a bien un départ net. On peut le voir, un petit exemple, un délégué apostolique au Liban et en Syrie, un Français, un franciscain français, lui écrit, donc archives privées, je vous envoie cette lettre confidentiellement. Et puis, le rapport officiel, il est envoyé à la congrégation pour l'Église orientale. Moi, j'ai la lettre confidentielle dans les papiers privés et le rapport, il est, s'il est avant 39, il est 1939, il est accessible. Si c'est après 1939, il n'est pas accessible. Donc il avait bien raison, mais encore aujourd'hui, je dirais à la limite, au Saint-Siège, on s'étonne un peu que ces papiers ne soient pas à Rome. Et s'ils étaient à Rome, je n'aurais pas pu les voir, puisque selon la règle édictée par Jean-Paul II, les papiers des cardinaux morts après 1922 ne sont pas accessibles. Alors lui, il est mort 50 ans après, en 1972. Voyez en quoi la règle n'est pas stricte. Puisque les papiers du cardinal Casaroli, le grand négociateur avec l'Europe orientale, une bonne partie de ces papiers a été publiée par un éditeur italien. Donc ce n'est pas aussi strict que mais en tous les cas, il y a eu un véritable problème. Et le fait que cette biographie soit la première, qu'il n'y ait rien eu véritablement, seulement un colloque à Toulouse quelques années auparavant sur Tisserand, c'est lié à ce problème d'archives. C'est-à-dire que personne n'avait vu ce fonds qui est véritablement d'une richesse inépuisable, je suis loin de l'avoir épuisé.
C'est un appel aux étudiants qui veulent approfondir une question que déjà vous approfondissez énormément. Votre biographie est volumineuse, elle fait plus de 700 pages, mais elle se lit comme un roman parce que
sa vie est un roman.
Sa vie est un roman extraordinaire.
Oui.
Alors venons-en, avant de voir tous ces rebondissements de cette vie extraordinaire, peut-être tout simplement ses origines. Il y a, vous dites, un triple héritage. C'est la famille qui a toujours été très importante pour le cardinal Tisserand. Une des photos d'ailleurs que vous publiez le montre avec tous ses neveux, ses petits-neveux, et il aidera toujours sa famille. Donc, triple héritage, la famille, la Lorraine, et la Lorraine est importante en 1884, année de sa naissance, du fait de la question allemande, et enfin la religion.
Oui, ce sont ces trois enracinements, et il est resté tout à fait fidèle aux trois. Il a été assez vite chef de famille, ses parents étant décédés, et il n'a pas eu à charge matériellement, mais il s'est quand même beaucoup occupé notamment de ses sœurs, puisque ses beaux-frères sont décédés tôt, il y avait des enfants en bas âge, donc il s'est occupé des neveux, des petits-neveux, et il a toujours aimé être entouré des siens pour ses 80 ans. Il y a une centaine de personnes, une centaine de neveux et petits-neveux, et l'attachement familial est toujours très fort. Et d'ailleurs, c'est une personne de la famille qui est la gardienne et l'ordonnatrice
du nid d'aigle dans les Pyrénées.
Absolument, une petite nièce, Madame Paul Henquin. Donc, la Lorraine également, même s'il n'y a pas vécu très longtemps, puisque à partir de 1908, il est à Rome, mais il y revient régulièrement, il suit d'assez près ce qui se passe dans son diocèse, il a joué un rôle important dans le réaménagement du Grand Séminaire, et notamment la bibliothèque du Grand Séminaire de Nancy, qui devait initialement recueillir ses papiers, et puis bon, ça ne s'est pas fait, et je sais que Nancy est toujours très amère de ne pas avoir eu ses papiers, donc très fidèle à la Lorraine et très, du coup, à la fois patriote lorrain et patriote français, voire nationaliste français, bien qu'il n'ait jamais été d'Action française.
Vous dites que ce n'est pas un nationalisme exacerbé.
C'est pas un nationaliste intégral. C'est pas quelqu'un qui pense le politique d'abord, comme Charles Maurras. Il n'a jamais été maurrassien, mais il est tout à fait convaincu de la nécessité de défendre les intérêts français, y compris de les défendre à Rome, ce qui lui a parfois été reproché dans les affaires de l'Orient. De ce point de vue-là, il n'a jamais varié. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958, il est pour le maintien de l'Algérie dans la République française, mais comme il est gaulliste, bon, il admet la solution du général. Donc, plus qu'un patriote, enfin, un nationaliste français, sans les aspects maurrassiens qu'il n'a jamais accepté. Il a toujours été fidèle à la ligne de Pie XI de ce point de vue-là. Et puis, un catholique de tradition, d'une famille catholique. Son père pratiquait, était même pilier de sa paroisse Saint-Sébastien à Nancy, ce qui est assez rare en 1880. Bon, les femmes vont à l'église, mais beaucoup d'hommes affectent de ne plus y aller. Au contraire, son père est marguillier de sa paroisse. Et donc, il semble qu'il n'ait jamais eu véritablement de problème sur la foi et sur l'adhésion à l'Église.
Oui.
C'est quelqu'un pour lequel ça coule de source, en quelque sorte. Et même au moment de la crise moderniste, dont on aura peut-être l'occasion de parler, où il faisait des études qui auraient pu l'amener à entrer en difficulté ou en conflit avec les interprétations officielles, ça n'a pas été le cas. Donc, oui, un catholique lorrain, sans histoire, je dirais, avec, et tout à fait enraciné.
Oui, avec des frères et des sœurs qui étaient également religieux.
Il y a un frère, Charles Tisserand, qui était père du Saint-Esprit et qui a été très longtemps missionnaire dans le territoire de l'ancienne Afrique équatoriale française, qui s'appelait le territoire d'Oubangui-Chari, l'actuelle République centrafricaine. Il est même devenu ensuite l'un des ethnologues et des linguistes spécialistes des langues de ce pays. Il est mort en 1962.
Étienne Fouilloux, nous nous retrouvons dans un instant.
Il se situe à côté de Bordeaux, le château de la Brède est le lieu où vécut Montesquieu. Retrouvez avec Olivia Battistello la magie d'un lieu d'exception ainsi que la vie du philosophe et académicien dans l'émission « La demeure de Montesquieu ».
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au cardinal Eugène Tisserand, donc né en 1884 et mort en 1972. Je reçois son biographe, Étienne Fouilloux. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous présenter, Étienne Fouilloux. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2 et donc spécialiste d'histoire religieuse. Alors, nous avons évoqué ses origines. On ne peut pas comprendre le cardinal Tisserand si on ne voit pas son cursus scolaire. Et quel cursus scolaire ? C'est un scientifique de haute volée.
Oui, d'une certaine manière, c'est un surdoué. Enfin, il est bachelier avec les deux possibilités de l'époque, aussi bien le baccalauréat S-lettres que le baccalauréat S-sciences à 16 ans. Il est toujours en avance pour tout. À 20 ans, il a fini sa théologie au grand séminaire de Nancy et il ne peut pas être ordonné puisqu'on n'ordonne pas avant 23 ans, donc on lui donne la possibilité de faire des études supérieures. Il aurait pu être professeur de sciences. D'ailleurs, quand il entre dans le clergé, quand il décide d'entrer au grand séminaire à 16 ans, donc en 1900, il se voit très bien puisque sa vocation est liée au professeur de sciences qu'il a eu dans le grand collège catholique de Nancy. Il se voit bien professeur de sciences. Et puis, au grand séminaire, il s'ennuie. Enfin, où il estime qu'il n'est pas suffisamment occupé. C'est un boulimique de travail. Et donc, il commence à apprendre tout seul l'hébreu, la première année. Puis ensuite, tout seul, le syriaque. Et donc, ses professeurs découvrent qu'il y a bien mieux à faire avec lui que d'en faire un professeur de sciences dans un collège privé. Et donc, on va en faire quelqu'un qui est un spécialiste des langues orientales anciennes, voire un exégète. Et donc, on lui offre la possibilité de se former. D'où, après la fin de ses études de théologie qui ne l'ont pas passionné, ces 4 ans entre 1900 et 1904, il obtient une bourse pour aller à l'école biblique de Jérusalem, l'école fondée par les Dominicains en 1890. Et là, c'est véritablement le coup de foudre pour l'Orient. Non seulement il apprend l'arabe ancien et se forme en archéologie, en exégèse avec le père Marie-Joseph Lagrange, qui sera son grand homme, mais il parcourt et Jérusalem et avec les caravanes de l'école, la Palestine actuelle, la Syrie. Et il a véritablement un coup de foudre pour l'Orient, pour tout l'Orient, aussi bien pour le monde juif. Il rencontre à la bibliothèque de l'école biblique de Jérusalem celui qui a été le refondateur de l'hébreu moderne. Il rencontre aussi les responsables des églises catholiques chrétiennes orientales, il rencontre des musulmans. Il y a véritablement un coup de foudre pour l'Orient et l'Orient a été quand même, au long de sa vie, jusqu'en 1959, l'élément principal de son travail. Mmh. Aussi bien l'Orient des textes anciens, des origines du christianisme, que l'Orient contemporain, auquel il s'intéresse énormément. Donc cette année à Jérusalem a été décisive. Quand il a eu, il n'a pas eu souvent de dépression. C'est pas un homme, c'est un homme très énergique, un homme d'action, en plus d'un savant. Donc c'est pas un homme à avoir des creux. Mais il y en a eu quelques-uns quand même.
Vous les montrez bien, oui. Ouais.
À ce moment-là, il dit « Ah, que ne suis-je à Jérusalem, dans les bibliothèques de l'école biblique, en train de mes chères études, et dans ce milieu que j'aime tant, finalement. »
Oui, parce que le milieu du Vatican n'est pas forcément un milieu facile, d'où ces moments, non pas de dépression, mais de...
Oui, un peu de difficulté.
De difficulté. Je voudrais citer le cardinal Tisserand dans une de ses lettres à son ami Georges Albert. Ce sont les mots d'un homme de foi qui renvoie également à la question finalement de la recherche. Il écrit « J'ai pleinement conscience de la vanité de mes études. Le déchiffrement de quelques manuscrits n'a de soi aucune influence sur la rotation du monde. Mais l'abaissement extérieur n'est-il pas justement, lorsqu'on est rempli de son idéal, le meilleur outil de perfectionnement ? L'amour n'est bon que passionné et je n'ai qu'un désir, c'est de voir le mien me posséder et inspirer plus exactement jusqu'au moindre tous les actes de ma vie. Pour celui qui aime, tout a un sens et voilà pourquoi mon chef de service à l'état-major de Beyrouth, il revient de la guerre, peut me citer comme ayant été un officier d'état-major modèle. Je ne travaillais pas pour moi, ni pour mes chefs, ni uniquement pour la France. Je travaillais pour celui que j'aime, et celui, c'est un C majuscule, c'est bien évidemment Dieu. Il y a un sens à la fois du devoir d'État, parce que c'est un homme de foi, une extraordinaire charité qui n'est autre que l'amour de Dieu.
Exactement, et son modèle, c'est saint François de Sales. Et donc, le devoir d'État est quelque chose qui est essentiel pour saint François de Sales et pour lui, à travers le devoir d'État, en faisant mieux qu'on peut son devoir d'État, on accomplit la volonté de Dieu. Il dit « je ne suis pas un mystique ». Quelque part après, il dit « je ne suis pas un aviateur spirituel ». Il se méfie des mystiques, mais pour lui, le devoir d'État, c'est la manière de remplir son rôle de chrétien et de se rapprocher de son Dieu. Cette lettre est très importante, c'est une lettre un peu de bilan à la fin de la guerre, puisque donc, si on passe les étapes, il a été à Jérusalem, puis au lieu d'être nommé dans un institut catholique en France, comme l'espéraient ses professeurs à Nancy, il est appelé au Vatican en 1908 pour enseigner l'assyrien, qui est quand même une langue austère, les cunéiformes. On a conservé son cahier de cours. Il n'enseigne pas longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. Et donc, il est appelé à s'occuper des manuscrits orientaux de la Bibliothèque Vaticane. Il devient un technicien de ces manuscrits anciens.
Il parlait l'hébreu, le syriaque, l'arabe, l'éthiopien et l'assyrien.
Oui.
Qui parle aujourd'hui ces 5 ou 6 langues ?
Oui, il parlait... une bonne douzaine de langues,
une bonne douzaine de langues.
Moitié de langues anciennes et moitié de langues modernes. Il parlait quand même, bien sûr, le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, il avait l'espagnol, il avait des notions de turc actuel. Enfin, de ce point de vue-là, c'est un homme extraordinaire. Enfin, il a une facilité à apprendre et à retenir. Il y a une mémoire, et puis c'est un bœuf de labour. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc, il s'occupe de ses manuscrits de la Bibliothèque Vaticane. La guerre éclate en 1914. Il est mobilisable. Il a fait son service militaire, un an de service militaire. Il est d'abord mobilisé dans un régiment d'infanterie de sa région. Il est légèrement blessé. Et quelqu'un s'aperçoit à l'hôpital où il est soigné, à Nancy, que... on aurait peut-être mieux à faire que d'en faire un soldat de ligne, un piou-piou comme les autres. Et donc à ce moment-là, il est appelé au ministère de la guerre et il s'occupe entre 1915 et 1917 d'un bureau Afrique qui est en fait un bureau d'Orient chargé d'observer les fronts orientaux, de renseigner l'état-major et le ministère sur le front turc, sur l'évolution de la situation et aussi sur le front des Balkans. C'est là qu'il est assez malheureux parce qu'au bout d'un certain temps, il a une sorte de travail de bureau. Enfin, il va au ministère tous les jours alors que les autres se font casser la figure sur le front. Donc là, il y a un creux. Il demande à aller au front et alors il est envoyé au détachement français de Palestine, qui est cette petite unité qui se constitue dans l'actuelle bande de Gaza, qui est chargée d'épauler, enfin d'être la représentation française auprès des troupes anglaises qui remontent d'Égypte pour conquérir la Palestine actuelle. Et donc il est avec ses troupes et il est un des premiers à entrer dans Jérusalem et ensuite il va jusqu'à Beyrouth où il est démobilisé en 1919. Donc la guerre ne l'a pas éloigné de l'Orient, au contraire. Et c'est compétences sur l'Orient ont été utilisées et au ministère et sur place où il a été surtout été un officier de logistique, c'est lui qui organisait les déplacements, où il a fait preuve, c'est le deuxième aspect du personnage, c'est pas seulement un savant, c'est un homme d'action. Et il a fait là, sur une petite échelle, la preuve de ses capacités d'homme d'action, et c'est sans doute ce qui lui vaut. Il avait rencontré auparavant le futur Pie XI, qui était le préfet de la grande bibliothèque de Milan, l'Ambrosienne, donc il avait rencontré l'homme de manuscrit, mais le futur Pie XI s'aperçoit qu'il a aussi des capacités d'homme d'action et qu'il pourrait faire très bien à la bibliothèque vaticane, donc après la guerre. Progressivement, il va être obligé d'abandonner le travail de savant pour s'occuper d'un travail de gestion. Et il a été celui qui a rénové la bibliothèque vaticane entre les années 20 et les années 30, non sans difficulté parce qu'il n'était pas directement en situation de responsabilité. Il était le numéro 2, il avait des rapports relativement difficiles avec le patron, qui lui était un homme d'études, un érudit, mais sans beaucoup de capacité d'organisation, et Tisserand piaffait un peu, mais c'est là qu'il a fait véritablement ses preuves. Et comme Pie XI était bibliothécaire dans l'âme, ce succès à la Bibliothèque Vaticane a été très important dans sa nomination comme cardinal en 1936.
Il y a une phrase qui revient un peu comme un balancier tout au long de votre ouvrage, qui est salésienne d'ailleurs, c'est la devise « ne rien demander, ne rien refuser ».
Qui est de saint François de Sales.
Qui est saint François de Sales, donc. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que le cardinal Tisserand aligne petit à petit toutes les responsabilités jusqu'à devenir un des personnages les plus importants du Vatican. On peut même dire qu'à la fin du pontificat de Pie XII, pendant les maladies de Pie XII,
il est le numéro un. Oui, d'aucuns pourraient dire c'est un ambitieux qui a voulu cumuler les charges. C'est pas l'impression que j'ai eue.
Il a une extrême humilité.
Il aurait préféré rester à s'occuper de ses manuscrits et des savants qui venaient à la Bibliothèque Vaticane, de continuer ses publications. Mais par ailleurs, il y a cette boulimie de... C'est un homme qui ne tenait pas en place, donc il explose en quelque sorte dans chacune de ses charges, et donc on lui en donne toujours plus. Et notamment après la Seconde Guerre mondiale, dans cette curie qui est dépeuplée, parce que contrairement à ce qu'on dit, Pie XII n'est pas quelqu'un de très autoritaire et de très... actif, mais c'est quelqu'un qui hésite et qui ne remplace pas finalement les gens qui meurent. Il est un des rares valides et actifs, et donc il cumule énormément de responsabilités. Ce qui, évidemment, ne plaît pas à tout le monde.
Et ce qui lui posera problème, d'ailleurs, à la mort de Pie XII, après l'élection de Jean XXIII, qui lui nommera un secrétaire d'État, etc.
Oui, parce que sous Pie XII, après 1944, il n'y a pas de... l'équivalent de chef de gouvernement, il n'y a plus de secrétaire d'État, Pie XII n'en voulait plus. Et donc, chacun des ministères, des dicastères, à Rome, avait beaucoup plus d'indépendance. Et il était, lui, le patron de la Congrégation pour l'Église orientale, on va sans doute y revenir. Et donc, il avait une assez large latitude d'action dans ce domaine-là, mais dans ce domaine seulement. Bon, il avait d'autres charges également.
Étienne Fouilleux, nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. Entamons la troisième partie de cette émission donc consacrée au cardinal Tisserand. Je reçois Étienne Fouilloux, professeur d'histoire et auteur d'une biographie donc consacrée à ce cardinal français né en 1884 et mort en 1972. Nous avons évoqué, Étienne Fouilloux, un peu ce parcours extraordinaire, ses mille vies, parce que le cardinal Tisserand a mille vies. Je voudrais m'arrêter maintenant sur les idées. Avant-guerre, tout d'abord, il y a la question du modernisme qui peu à peu se développe dans l'Église. Il y a la condamnation du Sillon, il y a ce qu'on appelle la crise de l'école biblique qui le concerne directement vu qu'il est en contact avec cette école. Comment se pose le cardinal Tisserand par rapport à ces deux questions ? Et au-delà, est-ce qu'il, devant les condamnations romaines, puisqu'il y aura une condamnation romaine, comment réagit-il, notamment par rapport à un Saint Pie X ?
C'est un homme pour lequel il ne peut pas y avoir d'opposition entre foi et raison. Il a toujours pensé que ce qui était rationnellement démontrable était compatible avec une démarche de foi éclairée. Donc, pendant ses études, il a fait ses études autour des textes bibliques entre 1903, disons, 1904 et 1908, c'est-à-dire en pleine crise moderniste. Je n'ai pas vu de réaction négative à l'égard des mesures prises, et il estime que ces mesures ne le concernent pas dans la mesure où lui, bon, il étudie ses textes avec le maximum de soin, mais en même temps, il est fidèle et il ne se pose pas de questions. Il se pose des questions, mais il les résout dans la parfaite
orthodoxie,
mais plutôt la parfaite conciliation entre les deux aspects. Ça ne veut pas dire qu'il ne réagisse pas quand il estime que les soupçons ou les condamnations sont exagérées et que les hommes qu'elle frappe sont des hommes fidèles et d'ailleurs qui se soumettent. Et donc, notamment à propos de Lagrange, il défend Lagrange, qui était soupçonné avant la Première Guerre mondiale. Il le défend jusqu'à la mort de Lagrange en 1937-38. Il estime que les suspicions et la mise à l'écart ont porté à faux. Donc, il a une attitude qu'on a appelée, alors il ne faut pas se tromper sur le mot parce qu'il a eu des connotations tout autres ensuite, il est une parfaite illustration plutôt de ce qu'on a appelé à l'époque, hein, avant 1914, le progressisme. C'est-à-dire des gens qui ne sont ni des modernistes à la Loisy, des gens qui, au nom de la critique historique, vont détruire ou contribuer à détruire des éléments de la foi, ni un antimoderniste farouche qui veut supprimer toute étude critique au nom de l'orthodoxie. Il est dans cette position médiane, qui est celle de Lagrange d'ailleurs, et tout au long de sa vie, il a défendu le même type de position, c'est-à-dire qu'il a défendu des gens qu'il estimait parfaitement fidèles et dont les conclusions finalement ne mettaient pas en cause, selon lui, les fondamentaux de la foi. Il les a défendus contre des attaques injustes. Et ceci, dès qu'il a une petite position au Vatican, à partir des années 20, on le voit défendre le manuel d'écriture sainte de Brassac, mis à l'index en 1923, et toute une série d'autres gens. Et à partir du moment où il est en situation, c'est-à-dire l'une de ses nombreuses casquettes, c'est d'être président de la commission biblique pontificale à partir de 1938, là encore nommé par Pie XI, il a été véritablement un des hommes de Pie XI, entre 1938 et 1949, comme président, il est celui qui couvre et qui encourage, il dit notre encyclique, à propos de l'encyclique Divino Afflante Spiritu sur l'écriture sainte de 1943, il est celui qui couvre les textes qu'on a pu considérer comme des textes libérateurs de l'exégèse par rapport aux mesures jugées maintenant beaucoup trop étroites de la crise moderniste, des décrets de la commission biblique qui, par exemple, disaient que les chapitres de premier chapitre de la Genèse étaient de l'ordre de l'histoire et non pas du genre littéraire, ou que tous les psaumes avaient été rédigés par David, ou que le quatrième évangile était bien de Jean l'évangéliste. Donc, il a toujours eu cette attitude-là, et c'est sans doute, si on doit considérer l'histoire de l'Église catholique au XXe siècle, c'est sans doute son rôle le plus important, comme président de la commission biblique, d'avoir été celui qui a couvert, organisé, encouragé pendant 10 ans. Là, il y a 3 textes clés, j'ai cité le plus important, l'encyclique de 43, qui a été rédigé au sein de la commission biblique. Le texte est signé depuis 12, mais c'est bien des spécialistes qui l'ont rédigé. Et là, avec le futur cardinal Béat et quelques autres, il a vraiment joué un rôle charnière et un rôle clé dans le prolongement de ce qui a toujours été son attitude, une approche raisonnable, rationnelle des textes, n'est pas contraire à la foi, ne peut pas être contraire à la foi, c'est même de l'ordre du dogme pour lui, hein, ne peut pas. Et donc, il faut encourager la théorie des genres littéraires ou autre. Ça, ça a été véritablement son attitude au moment. Alors, il est tout jeune au moment de la crise moderniste. J'ai pas beaucoup de documentation. Il y a une lettre où un de ses amis, où il dit, il s'interroge notamment sur la jeunesse, sur son genre littéraire. Je n'ai pas de documents plus nombreux. Mais il n'a pas une attitude de repli ou de critique. Il dit le travail scientifique et l'adhésion de foi ne peuvent pas être contraires ou contradictoires. C'est son attitude. Et sur le sillon, alors là, il y a quand même des choses plus... Ça engage moins la foi. Le Sillon était ce mouvement qui voulait concilier la démocratie et l'Église, qui est condamné par une lettre de Pie X en 1910. Là, il a encouragé, il a été proche des sillonistes. Son frère, Charles, le futur missionnaire, a été sioniste. Plusieurs de ses jeunes amis les encouragent à aller au Sillon. Donc là, on sent qu'il n'est pas heureux de la condamnation.
Oui, oui.
Et qu'il a ensuite été plutôt... proche des chrétiens démocrates, oui. Aussi bien de Francis Queguet, puisqu'il a même soutenu matériellement l'Aube, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Il a été proche de certains chrétiens démocrates italiens, et notamment le futur président Alcide de Gasperi, qu'il a accueilli à la Bibliothèque Vaticane, alors que de Gasperi sortait des prisons fascistes. Il est plus proche des démocrates chrétiens, jusque dans les années 50, après sa position, le fait qu'il devient très anticommuniste, l'éloigne plutôt de ce courant-là. Mais c'est plutôt sa famille politique, même s'il n'a jamais voulu jouer de rôle politique.
Alors, il y a une autre question dans l'ordre des idées, qui est celle de la relation avec les autres églises. Et du fait de sa position à la Congrégation pour les Églises orientales, il est amené à développer ses idées. Est-ce que l'on peut dire que c'est un œcuménique avant l'heure ? Ou bien il reste très unioniste au fond et il tient à ce que les frères séparés reviennent vers le siège de Rome.
Alors, pendant ses études à Paris, dans les années 1906-1908, il a été en contact avec des milieux œcuméniques, notamment avec le père Fernand Portal, lazariste, qui était allé assez loin dans ce domaine. Mais à partir du moment où il est en fonction, donc il est secrétaire, il n'y a pas de préfet à la Congrégation orientale, c'est le pape qui est le préfet, mais le secrétaire, c'est de fait le patron, le pape n'intervient pas constamment. Il est secrétaire de la Congrégation orientale entre 1936, donc nommé par Pie XI. C'est une nomination tout à fait justifiée. Il est celui qui, à Rome, connaît le mieux l'Orient ancien et actuel. Donc entre 1936 et 1959, c'est-à-dire pendant 23 ans, ce qui est considérable. Et la tâche principale qu'il se donne, c'est de renforcer les églises catholiques de rite oriental pour qu'elles deviennent le pont, la passerelle par laquelle les églises catholiques appelées alors dissidentes, séparées, reviendront en effet dans le giron romain. Et il est une parfaite illustration de ce que j'ai appelé antérieurement l'unionisme, c'est-à-dire de cette attitude vis-à-vis des chrétiens séparés qui sépare, qui isole les orthodoxes plus proches de Rome des protestants. Il s'est quasiment jamais occupé du protestantisme et qui braque toute l'attention sur les églises d'Orient en faisant des églises catholiques de rite oriental, avec leurs travers et leurs forces, cette sorte de matrice, on peut dire aussi passerelle, pont ou matrice, pour un retour de l'Orient séparé ou dissident à Rome. Et donc ça, c'est la tâche officielle qu'il se donne. Et donc aux écuménistes, comme le père Congar, qui viennent le voir en 1946, il dit « mais moi je ne m'occupe pas d'écuménisme ». Et encore en 1970, mais c'était dans un contexte que, ultérieurement, j'ai compris très particulier, je l'ai vu une fois, j'ai été reçu une fois à Rome par lui en 1970, au moment où je travaillais sur l'histoire de l'écuménisme, il m'a dit « oh, mais je ne me suis jamais occupé d'écuménisme ». Donc il s'en tient à cela, et en 1959-60, quand Jean XXIII créer le secrétariat pour l'unité des chrétiens, que le cardinal Béat en est nommé secrétaire. Il dit c'est très bien, Béat s'occupe très bien des chrétiens séparés, et moi, ça n'est pas mon travail. Bien que progressivement, surtout à la fin du pontificat de Pie XII, comme il s'occupe de l'Orient, de plus en plus d'écuménistes, et notamment le père Dumont, un dominicain français, fondateur du centre Istina, s'adresse à lui parce qu'il est, avant la création du secrétariat pour l'unité, celui qui connaît le moins mal le problème. Mais c'est vraiment pas son problème. Toute sa tâche à l'Oriental a été d'essayer de dynamiser ces églises. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas eu de chance historiquement, puisque en 1939, il y a 3 ans qu'il est en charge, la guerre éclate, et cette guerre et la progression du communisme en Europe orientale à la suite de la guerre vont le couper d'une bonne partie de ses ouailles, la moitié. Les chrétiens d'Ukraine, supprimés par trait de plume en 1946, puis les chrétiens orientaux de Roumanie, puis de Bulgarie. Donc il ne lui reste plus que les chrétiens du Proche-Orient, en quelque sorte, avec lesquels, bon, il est assez autoritaire, donc un diplomate français écrit « On ne traite pas une vénérable église orientale comme une paroisse bretonne ». C'est vrai qu'il a le souci de les réformer, de les rendre véritablement performantes. Et pour cela, il veut leur donner des prêtres aussi bien formés que les prêtres latins, il veut leur donner des religieux qui respectent les règles qu'ils ont adoptés, etc. Et donc, il n'est pas toujours très diplomate. C'est un homme rugueux. Enfin, et donc, il a parfois des problèmes avec ses églises. Mais son souci réformateur, qui est réel, il a énormément créé des diocèses, notamment dans l'émigration au Canada, aux États-Unis. Il a joué un rôle important pour l'église d'Inde du Sud. C'est son seul succès. Même. Il fait un grand voyage en 1953 en Inde du Sud et il est reçu comme le Messie. Il y a des tas de photos où il est couvert de colliers de fleurs. En fait. Et encore actuellement, dans le Kerala, la mémoire du cardinal Tisserand est vive, plus vive qu'en Occident. Donc, il a eu des éléments de réussite, incontestablement, mais il est tombé dans une période qui l'ont empêché véritablement de donner toute sa mesure, puisqu'il n'avait plus de contact avec ces églises qui étaient devenues des églises du silence. D'où un très vif anticommunisme qui est un anticommunisme de source religieuse contre l'État persécuteur dans les années 45-50.
Étienne Fouilloux, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause.
Canal Academy dresse pour vous le portrait d'un peintre de renom, Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste officielle de la reine Marie-Antoinette. Partie en Italie au moment de la Révolution, elle parcourt Turin, Parme, Rome et Naples avant de voyager dans toute l'Europe pendant plusieurs années. Elisabeth Vigée-Lebrun, souvenir d'une grande dame de la peinture, une émission en compagnie de Geneviève Haroche-Bouzinac, à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Je reçois Étienne Fouilloux, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2 et auteur d'une biographie du cardinal Tisserand, une biographie parue aux éditions des Clés de Brouwer. Alors, Étienne Fouilloux, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Il nous reste une poignée de minutes. Nous étions restés sur l'idée à la fois du réformateur et de l'antique communiste qu'il fut. Je voudrais revenir et m'arrêter encore une fois sur ce réformateur parce que, au fond, on a l'impression que aux églises orientales, dans sa charge, il a plus ou moins réussi et il a été victime en quelque sorte des aléas de la politique internationale, de l'histoire. En revanche, il a été également à la tête du diocèse de Porto et Santa Rufina, où là, il a eu un talent réformateur extraordinaire.
C'est un tout petit diocèse, c'est une des rares charges qu'il ait choisie, puisqu'il a opté en 1946 pour ce petit diocèse suburbicaire, et il a été une sorte d'évêque tridentin, de modèle Charles Borromée, enfin. C'est-à-dire que ce diocèse où il n'y avait rien, il n'y avait plus de cathédrale, il était géré depuis les bureaux romains, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'action catholique, il a tout créé. Alors c'est tout petit, c'est entre 50 et 80 000 personnes dans une région déshéritée du Latium, qui était une région de marais, qui était bonifiée. La bonification a commencé sous Mussolini et s'est continuée sous les démocrates chrétiens. Il a doublé le nombre des paroisses, passé de 25 à 50. Il a fait construire une vingtaine d'églises, dont une cathédrale à la Storta. Il a recruté du clergé, un peu de briquet de broc, parce qu'il n'y avait pas de vocation locale. Donc, il a attiré, son nom a attiré quelques personnalités. Il a créé de toutes pièces une action catholique. Il s'est occupé de l'enseignement religieux des enfants La loi italienne, le Concordat, qui a été prorogé après 1945, donnait l'enseignement religieux comme les autres à l'école, mais sous contrôle de l'Église. Et donc, les évêques étaient censés vérifier ce qu'enseignaient les instituteurs. Aucun évêque ne faisait ça. Quand il a dit qu'il irait dans une école, le ministre de l'Éducation nationale de Rome s'est précipité en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il vient ?» Or, il a fait, en 5 ans, il faisait toutes les écoles de son diocèse. Il a instauré un concours de catéchisme entre les écoles. Donc, il s'est passionné véritablement pour cette tâche. C'est d'autant plus étonnant qu'il n'avait jamais eu de charge pastorale. Il n'a jamais été vicaire, ni curé, il n'a jamais été évêque résidentiel avant d'être évêque de Porto et Santa Rufina entre 1946 et 1966. Donc, c'est une sorte de modèle réduit, ce diocèse, mais ça montre bien ses capacités d'organisation. Il a essayé aussi de réformer, enfin, de faire que la curie fonctionne mieux. Il n'est pas hostile à la curie, comme on a pu le dire, il en a été un membre éminent, mais...
N'est pas un Romain, vous dites.
Ah non.
Il garde son identité française.
Absolument. Par exemple, il n'a jamais voulu avoir de secrétaire italien. De secrétaire tout court, c'est souvent des membres de sa famille qui lui ont servi de secrétaire, mais il ne voulait pas qu'un proche puisse raconter dans les salons romains que le cardinal avait dit ceci ou cela. Et donc, il est resté en effet assez étranger aux différents milieux, aux courants de la curie, ce qui fait que ça a limité, il n'a jamais été l'homme d'un clan, donc ça a limité en quelque sorte son pouvoir. Il était l'homme de Pie XI, mais Pie XI est mort en 1939. Il n'a jamais été l'homme d'un pape ensuite. Il a été assez proche à la fin de la vie de Pie XII, Au début, ça s'était assez mal passé en 1940 parce que...
Vous décrivez les, disons-le, hein, si vous me permettez l'expression, mais les engueulades entre les deux personnages.
Le 22 juin 1940, en audience, Pie XII lui a demandé de cesser de le bombarder de lettres, lui demandant de choisir dans l'un des deux camps, enfin de décréter qui était l'agresseur, alors que Tisserand, l'ambassadeur Vladimir d'Ormesson, qui l'a bien connu à l'époque, dit qu'il était comme... un éléphant dans un magasin de porcelaine. Enfin, il voulait tout casser. Donc, il a été relativement proche de Pie XII, mais il n'a jamais été l'homme de Pie XII. Et ensuite, ça s'est mal passé avec Jean XXIII, qui lui a demandé de se retirer de l'Oriental, et encore plus avec Paul VI. Donc, la fin de la vie a été un peu triste. Mais s'il avait été l'homme d'un courant, il aurait pu avoir, à un moment ou à un autre, une influence plus importante. On venait le chercher pour des sortes de patates chaudes, enfin pour des affaires que personne ne voulait régler, parce qu'on savait que c'était un homme droit, qui n'était l'homme de personne. Et donc, il a accepté comme ça. Le meilleur exemple, c'est des affaires de l'ordre de Malte, qui était vraiment une affaire très très difficile, avec des querelles internes au Vatican. Pie XII lui a demandé, comme étant quelqu'un d'impartial, qui n'avait pas d'intérêt dans l'affaire, et il a bien joué ce rôle. Mais son indépendance lui a aussi coûté en influence, et sa manière d'être un peu rugueuse lui a aussi coûté en popularité. Il n'a jamais été un papabilé.
Il a dû recevoir que une ou deux ou trois voix lors des conclaves.
Il s'est occupé des 58. Conclaves de manière très, très, très rigoureuse. Il dit, je les ai menés.
Oui, parce qu'il a été doyen du Sacré Collège à partir de
51. Jusqu'à sa mort. Donc
le doyen joue un rôle lors des conclaves.
Absolument. Ouais. Alors, il dit, je les ai menés à la baguette, mais... Est-ce qu'il a été un grand électeur? Je n'en suis pas sûr. Et en tous les cas, il était réservé sur les deux élus, aussi bien sur Jean XXIII que sur Paul VI.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Étienne Fouillou, d'être venu au micro de Canal Academy pour évoquer cette personnalité extrêmement riche. J'encourage nos auditeurs à acquérir cet ouvrage qui est presque un roman d'aventure, la vie extraordinaire d'un des seuls grands cardinaux français du XXe siècle, le cardinal Tisserand, 1884-1972, dans la collection Pages d'Histoire des éditions des Clés de Brouwer. Je cite à nouveau la collection Sources chrétiennes, un petit ouvrage dont vous êtes aussi l'auteur, Étienne Fouillou, édité Les Pères de l'Église au XXe siècle aux éditions du Cerf, et vous avez participé à l'extraordinaire outil de travail Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, indispensable pour toute personne qui s'intéresse à l'histoire religieuse contemporaine, un dictionnaire dirigé par Dominique-Marie Dauzé et Frédéric Lemoigne aux éditions du Cerf. Je souhaiterais être complet au lendemain de ces JMJ 2012 en disant que l'Osservatore Romano, l'édition française, permet à toute personne qui le souhaite de s'abonner à un tarif préférentiel, donc l'édition française, disponible sur le site de L'Homme Nouveau, l'hommenouveau.fr, donc 10-12 rue Rosenwald à Paris dans le 15e, 10-12 rue Rosenwald, 75-015 Paris, la meilleure façon de connaître le pape Benoît XVI est peut-être tout simplement de le lire et donc de lire ses interventions qui sont retranscrites dans l'Osservatore Romano, le journal du pape. Merci Étienne Fouillou.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.